Avant de plonger dans votre prochain épisode de Course Épique, je voulais vous parler de l'Odyssée ASPTT, le podcast qui retrace une épopée sportive de 125 ans. Le mouvement ASPTT propose une multitude d'activités sportives pour tout niveau, du débutant au confirmé, dans toute la France. J'ai particulièrement aimé dans ce podcast l'alternance entre les anecdotes historiques sur de nombreuses disciplines sportives et les témoignages en immersion des adhérents de l'association. C'est à la fois rythmé, vivant et instructif. Avec ce podcast, vous allez vous plonger dans l'odyssée de cette association, véritable pionnière dans la démocratisation du sport en France. Et puis les 4 épisodes de l'Odyssée ASPTT mettent en lumière ce qu'il y a de plus essentiel dans le sport selon moi. Les notions d'égalité, de solidarité, d'inclusion et d'accessibilité. Et dont la course à pied est d'ailleurs une très belle expression, vous êtes bien placé pour le savoir. Vous savez désormais ce qu'il vous reste à faire. Faites comme moi, courez découvrir les 4 épisodes de l'Odyssée ASPTT sur votre plateforme d'écoute favorite. Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course Épique. Course Épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode.
J'ai une fascination particulière pour l'ultra en général, mais quand on parle d'ultra, le berceau de l'ultra trail, c'est les États-Unis. Donc les courses américaines, les grandes courses américaines, les grands 100 miles, ça m'a toujours vraiment fasciné. D'ailleurs, dans les premiers contenus dont je parlais de Billy Young, il y a beaucoup les 100 miles américains. L'Hard Rock, évidemment, la Western States aussi, Leadville, toutes ces courses-là. J'ai eu la chance en 2022 d'aller documenter la Western States et je suis ressorti de là bouleversé. C'est la première fois que je voyais ça et c'est la première fois que je mettais les pieds là-bas pour voir du trail à l'américaine, de l'ultra à l'américaine. Et en sortant de ça, je me suis dit, il faut que j'y retourne. Il faut que je continue à les découvrir. Là, j'ai vraiment à peine touché. Il faut que j'aille vraiment voir encore plus que ce que c'est. Donc, j'ai très vite planifié de retourner aux États-Unis l'année d'après. Le fait est que la Western States et la Hard Rock, c'est relativement proche dans le calendrier. La Western States, c'est à la fin juin, c'est mi-juillet pour la Hard Rock. Et donc, je m'étais dit que j'allais faire le doublé cette fois entre les deux.
Il n'y a pas que Courtenay qui a l'ordre d'enchaîner.
Exactement, exactement.
Toutes les courses.
Et du coup, je m'étais dit ça pour 2023. Quand le tirage au sort, parce que c'est des courses qui sont très dures d'accès, hein, donc... Il y a des tirages au sort qui sont très très compliqués.
146 partants là. Ouais.
Exactement. Donc c'est comme pour des milliers de demandes. Hein. Donc faut bien se rendre compte. Et d'autant plus qu'il y a des systèmes de plus on fait la Hard Rock, plus on a de chances d'être pris. Donc quand c'est notre première fois qu'on tente, là on n'a quasiment aucune chance. Quand la liste des participants est tombée pour la Hard Rock, il y avait Aurélien dedans. Et donc bah, forcément, je me suis dit que c'était une porte d'entrée naturelle pour moi. Si je devais documenter la Hard Rock, Aurélien serait une porte d'entrée idéale. Parce que français, parce que. On se connaissait déjà un petit peu, parce que j'avais des liens aussi avec ses partenaires. Plein de raisons qui faisaient que ça pouvait faire du sens. C'est un peu comme ça que l'idée est née dans ma tête. J'en ai parlé à Guillaume Vautier, la personne chez Compressport qui gère toute la partie marketing, communication, d'un projet potentiel, autour avec Aurélien en tout cas, sur la Hard Rock. Ça l'a emballé tout de suite. C'est un peu comme ça que ça s'est amorcé, et puis après, le projet a mûri, et voilà.
À quel point tu le connaissais, Aurélien Dunant-Palaz, avant de te lancer dans ce projet, donc d'aller documenter sa Hard Rock l'année dernière?
Ça fait quelques temps que je suis dans le milieu et que je gravite dans les courses et je me suis fait ma place. Globalement, tous les athlètes savent plus ou moins qui je suis et je sais qui ils sont, plus ou moins tous aussi. Donc on avait plus ou moins cette relation avec Aurélien, c'est-à-dire qu'on savait l'un et l'autre qui on était, mais on se connaissait pas plus que ça. Avant de commencer ce projet avec lui sur la Hard Rock, j'avais des a priori sur Aurélien. C'est pas forcément négatif ou positif, c'est j'avais des idées un peu reçues sur le personnage, qui il était, son caractère, etc. Et j'avais hâte en fait de savoir si je m'étais fait une fausse idée ou si j'avais vu juste et donc de découvrir. Vraiment, moi ça m'intéressait de découvrir Aurélien à ce moment-là, d'autant plus que je savais qu'il serait dans un contexte hors de sa zone de confort, et donc je trouvais que c'était d'autant plus intéressant de le découvrir dans ce contexte-là où finalement il serait un peu livré à lui-même et où il serait obligé de me montrer qui il est vraiment et pas se cacher derrière des choses et des habitudes, etc. Donc j'avais vraiment hâte de le découvrir, mais objectivement je le connaissais pas beaucoup.
Est-ce que c'est indispensable d'avoir un certain niveau d'attachement ou d'affinité émotionnelle pour finalement mieux filmer ou mieux shooter quelqu'un?
Ça peut être un atout indéniable.
C'est pas un prérequis, mais ça peut apporter en plus.
Ouais, je pense que c'est pas un prérequis, par contre. Voire même, ça peut être un désavantage. Ouais. Je pense que ça peut être un avantage important, dans le sens où on va aller chercher des choses dans l'intimité, là où quelqu'un qui a pas la proximité avec la personne, avec l'athlète, ne pourra jamais aller. À l'inverse, parfois ça laisse un peu trop dans un confort et donc il y a des choses qui nous paraissent évidentes, qui ne le sont pas en fait. Et ces choses-là, on va pas forcément aller les raconter, on va pas aller forcément les filmer, les documenter. Or, ça aurait été intéressant sans doute pour la narration. Donc faut aussi constamment se remettre en question, je pense, quand on connaît très bien la personne et qu'on a un lien intime avec, pour aussi se questionner sur qu'est-ce qu'on est en train de faire. Mais je pense pas que ce soit un prérequis, je pense pas.
À quel moment il s'est dessiné ce projet de Diag? L'idée, c'est donc que tu photographies François. Est-ce que c'est dès lors que François a formulé officiellement son envie d'aller sur la course, qui a été assez tardif par rapport à la Diag elle-même, je ne sais plus combien de temps avant, ça devait être peut-être courant septembre ou début octobre pour fin octobre, quelque chose comme ça. Est-ce que ça a été à son initiative? Comment tout ça a vu le jour?
Effectivement, en fait, le contexte est hyper particulier parce que François, je ne sais pas si je révèle des choses, mais en tout cas, François a pris sa décision très 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 tard sur avis médical parce qu'il avait toute une batterie d'examens après les différents problèmes médicaux qu'il a eu cette année, là, fin septembre. Et en fait, c'était un point de passage pour savoir qu'est-ce qu'il pourrait faire en fin de saison. Il avait différentes options sur la table. Quand il a eu le feu vert des médecins, de son chirurgien, lui, il avait une très très forte envie de Diag. Il en parlait un tout petit peu avant. C'est-à-dire depuis, je me souviens, on a couru ensemble en septembre. Et déjà, il en parlait de façon un peu floue. Et donc, on avait en tête que c'était potentiellement une option. Pour autant, il a pris sa décision hyper tard. Et donc, c'est au moment où il a annoncé sa décision. C'était un mercredi matin. Il me l'avait annoncé la veille. Mais la veille, il m'annonce simplement qu'il va faire la course. Le mercredi matin, il annonce de façon officielle. Et le mercredi après-midi, il m'a appelé pour me demander si j'étais chaud pour le suivre.
T'as dit non? Je peux
pas... Évidemment, j'ai évidemment dit non. Désolé, je suis pris.
J'ai une compète de badminton, ça tombe vraiment très mal. Et la Réunion, en plus, au mois d'octobre.
On t'est pas terrible.
Tu connaissais pas la Réunion?
Jamais été.
C'était la première fois aussi que tu suivais François sur une course?
Tout à fait. C'est la première fois et... Quelque part, c'est une forme d'accomplissement aussi. Comme j'expliquais, François, ça a été quelqu'un d'hyper fondateur dans la passion que j'ai pour ce sport. Évidemment, j'ai changé complètement de regard sur la personne, puisqu'aujourd'hui, c'est un ami, mais là où avant, c'était presque une idole. Mais c'était la première fois. J'espère que ce ne sera pas la dernière.
Tu as documenté sa course dès les débuts, dès l'avant-course, donc sans révéler quoi que ce soit qui soit confidentiel. Mais voilà, comment, dans quelle disposition tu l'as trouvé? C'était comme ce que tu disais, une reprise quand même près de longs mois de blessure. Comment est-ce qu'il était? C'est aussi son jardin là-bas.
Exactement. En fait, ce qui est impressionnant avec François Danen à la Réunion, c'est à quel point c'est une star. Et je pense que ça doit être très pesant. Je pense qu'il arrive à ne pas le faire ressentir aux gens. Alors, je pense qu'on prend conscience de ce que c'est d'être un peu un sportif star dans le foot, ou c'est peut-être encore des dimensions autres. Hein, mais là, c'était impressionnant. Il ne peut pas se déplacer sans prendre ça en compte, en fait, parce qu'il sait que tout va être plus lent, parce qu'il va devoir faire des photos, il va devoir signer des autographes, etc. Et la dimension de ce que c'est François Danen, c'est vraiment une icône à La Réunion, et c'est impressionnant de voir ça. Moi, j'ai déjà vécu ça avec Jim, notamment. J'avais eu l'expérience assez particulière à Nice, bah, UTMB, juste avant, où on a été un peu exfiltré pour sortir de la zone des podiums, parce que sinon on serait jamais sorti, quoi, tellement il y avait des gens qui demandaient qu'il l'arrêtait. Et finalement, le trail running, c'est aussi en train de devenir ça, et je pense que faut en prendre conscience.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.